7-9 de Matin Première.
Il est 7h48, c'était il y a 5 ans après l'explosion dans le métro à Malbec. Marie-Astrid de Villeenfagne, médecin urgentiste, organise le premier poste médical avancé à quelques mètres du drame. Et Thomas Gadisseux, elle est notre invité ce matin.
5 ans plus tard, confrontée à une crise sans précédent, avec ses équipes, elle continue à être sur le front pour aller chercher notamment les patients Covid. Une gestion de crise permanente. Avec son mari, Yvan de Beaufort, ils ont écrit un livre, Urgence Attentat. Ils sont tous les deux nos invités ce matin. Ils racontent dans cet ouvrage la journée du 22 mars, mais aussi le séisme qu'une telle expérience peut avoir sur leur vie de famille, mais aussi pour le personnel soignant.
Bonjour Marie-Astrid de Villeenfagne.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous gardez comme image de ce 22 mars? Qu'est-ce qui est resté ancré en vous?
Alors, il y a beaucoup d'images qui sont restées ancrées. En effet, il y a toute cette solidarité entre le personnel soignant, il y a ces patients de ce jour-là, qu'on a essayé d'aider le mieux possible, et puis finalement qui redeviennent des personnes à part entière 5 ans plus tard. Et c'est, je pense, ce message d'espoir-là, de voir par exemple Béatrice qui va préparer les Jeux paralympiques. C'est voilà, dans tout ce noir et dans tous ces éléments difficiles, il y a quand même des points positifs.
Quel suivi vous avez pu faire des victimes que vous avez soignées ce matin-là?
Alors moi, j'avais besoin de savoir ce que ces patients étaient devenus. Et donc, il y a toute une série de patients pour lesquels c'était très facile parce qu'ils étaient dans mon hôpital.
Vous avez gardé contact avec eux?
Et donc, j'ai gardé des contacts. Et puis, ils sont restés quand même plusieurs semaines, parfois plusieurs mois à l'hôpital. Moi, je fais aussi des gardes aux soins intensifs. Et donc, je devais également m'en occuper. Et je pense que tant pour certains d'entre eux que pour moi, c'était important de garder un contact.
Vous décrivez ce sentiment de solidarité et pourtant, dans l'ensemble des témoignages, revient ce sentiment d'être seul au monde. On a l'impression d'être la seule personne en mouvement. Vous décrivez d'ailleurs, durant votre intervention, que vous n'entendez plus aucun bruit, alors que ça crie partout. Il y a un sentiment d'irréel, en fait, qui prédomine.
On a un peu l'impression, en tout cas a posteriori, c'est cette impression que j'ai, c'est de marcher comme sur de l'ouate ou que tout est assourdi. En effet, moi, je n'ai pas entendu de bruit dans ce poste médical, alors que l'infirmier à côté de moi me disait mais ça crie partout, ça gémit, il y a tous ces patients qui sont là. Et moi, j'ai, en effet, je pense que mon cerveau, il s'est dit là, pour pouvoir travailler correctement, il va falloir enlever certaines parties. Et moi, le bruit, là, je ne l'ai pas entendu.
Et vous décrivez comment vous vous concentrez sur l'essentiel avec cette phrase qui résonne: si nous nous occupons de tous à la fois, nous allons tous les perdre. Comment on effectue ces choix à ce moment-là?
Ce qu'il faut, c'est essayer de garder une vue d'ensemble sur les patients pour pouvoir tous les gérer. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est vraiment essayer de s'occuper du principal. On sait que s'il y en a un qui a une hémorragie massive, il va falloir comprimer, parce que si on ne fait rien, celui-là va mourir. S'il y en a un qui ne sait pas respirer, il va falloir libérer ses voies aériennes pour lui permettre de respirer, parce que s'il ne respire plus, il va mourir. Et il faut garder toujours cette vue d'ensemble de tous les patients.
Est-ce qu'on est préparé à ce genre d'événement quand on fait ce métier, médecin urgentiste?
Alors moi, j'ai fait la médecine en pensant m'occuper d'un patient à la fois, mais la médecine civile, et on nous a toujours dit, s'il y a quelque chose de masse, ce sera quand même les militaires qui vont s'en occuper. Et ce jour-là, les militaires, ils étaient quand même occupés à autre chose. Et donc, est-ce qu'on est préparé? On peut toujours l'être mieux. Je pense que dans la situation actuelle, on s'en rend compte également. On peut toujours être mieux préparé. Mais voilà, une fois sur le terrain, on a quand même des bonnes connaissances de ce qu'on doit faire. Et heureusement que la théorie revient. Parce que même si on perd ses moyens, on retombe sur nos pieds.
Avant la journée du 22 mars, vous aviez été mobilisé lors de l'arrestation de Salah Abdeslam. La peur s'était aussi installée après ce qui s'était passé rue du Driss avec une autre équipe de Saint-Pierre qui avait été lors de cette intervention à Forêt, qui avait eu peur pour elle. Et vous décrivez un médecin mort, c'est un mauvais médecin. Cette phrase, elle vous traverse l'esprit à un moment donné quand vous êtes à Malbec, parce qu'elle a crainte d'un surattentat. À un moment donné, on doit évacuer même les lieux du poste médical avancé.
Alors, en effet, à un moment donné, se pose la question d'évacuer, mais c'est impossible d'évacuer les patients qui sont là inconscients. Et donc, finalement, on en conclut à la situation, et peut-être que ça, c'est un peu à la belge de dire, ben voilà, alors, la zone rouge, la zone dangereuse, c'est juste cette partie-là, et puis hop, on fait un petit... une petite exception pour le poste médical. Mais c'est vrai que je pense que toute la Belgique est sous tension tous ces jours-là. On se disait qu'en Belgique, il ne se passerait rien, parce que finalement, la Belgique, ben, on n'est que la petite Belgique, mais Paris, c'est normal que Paris... Et puis non, ben on se rend compte que finalement, à Bruxelles, il se passe aussi quelque chose de grave.
Vous avez écrit ce livre à quatre mains avec votre mari Yvan de Beaufort, bonjour.
Bonjour.
Et vous décrivez cette journée du 22 mars, comment vous êtes dépourvu. Vous dites, je suis maladroit quand mon épouse rentre de la maison, pas d'eau, idiot, j'attends benoîtement le retour à la maison, je l'accueille en lui offrant mes bras, on se réfugie de longues minutes, comme si vous aussi, vous étiez dépourvu. Est-ce que un séisme, quand on vit ça de manière professionnelle, quel est l'impact sur la famille du coup
on s'est rendu
de
compte,
ce médecin et dentiste.
On s'est rendu compte au travers de la rédaction de ce livre que, en fait, au-delà des victimes directes, physiologiques, en fait, le personnel soignant, le personnel d'intervention, qu'il soit infirmier, qu'il soit médecin, qu'il soit policier, qu'il soit judiciaire, souffre aussi de façon directe de ces séquelles psychologiques. Et moi, j'étais aussi patho et bêté, j'avais pas les mots, j'avais pas la formation, j'avais jamais réfléchi à ces questions-là. Et donc, on pense qu'il doit y avoir une question, une réflexion qui doit s'installer de façon toute humble, mais sur ce comportement à avoir et le fait qu'une blouse, un uniforme, n'est pas une carapace suffisante quand on exerce ce genre de métier exposé. Et que quand un psychologue, un psychiatre voit régulièrement ses collègues pour débriefer des situations difficiles qu'elle entrevoit, ça n'est pas le cas du tout chez les autres personnes exposées dans ces métiers-là. Et on pense qu'une réflexion peut s'installer.
Comment appréhender ces chocs émotionnels ? La question, elle résonne forcément avec ce qui se passe pour l'instant dans l'ensemble des hôpitaux du pays, avec ces unités Covid. Comment, du coup, à Saint-Pierre, on arrive à gérer mieux psychologiquement ce choc-là maintenant ? Après, peut-être la vague terroriste, on a tiré des enseignements ?
Alors, les psychologues sont beaucoup plus présents dans les services et donc, au début, ils arrivent dans notre service et on les regarde un peu, l'air de dire « Ah, allez, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici ? Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit parce que sinon, on va être analysé. » Et puis, petit à petit, comme cette situation Covid dure maintenant depuis un an, mais petit à petit, on a appris à les connaître et au lieu de prendre notre café en se retournant un peu sur le côté en se disant « Ils sont là », ben finalement, on prend le café en les regardant, en discutant. Et je pense que c'est vraiment important parce que, alors, ce que vivent les familles est terrible de voir quelqu'un de leur famille tout seul à l'hôpital, peut-être mourir tout seul à l'hôpital. Et pour les soignants qui sont là des semaines et des semaines aux soins intensifs à s'occuper de ces patients, et en effet, il y en a certains qui meurent, mais c'est aussi une solitude énorme. Et donc, je pense qu'en effet, on a réellement besoin d'être soutenus dans cette tension qui dure maintenant depuis un an.
Et vous décrivez dans votre livre comment, dans votre équipe, des secouristes ont été ébranlés, des familles de sauveteurs aussi désemparées, comme le raconte votre époux. Et en même temps, vous dites qu'il y a une certaine appréhension d'avoir un soutien psychologique. Comment on explique ça de la part d'un corps médical, du personnel soignant ?
On a commencé nos études un peu, je pense, comme dans beaucoup d'universités où on nous dit on est les meilleurs. Vous avez vu le nombre de médecins qui commencent en première, et vous serez pas tous à terminer. Et donc, en effet, on se dit hop, on est les meilleurs, on est les plus forts, on avance. Peut-être que ça fait partie du caractère de certains aussi. Et c'est ça le problème, en fait, c'est que se dire, à un moment, quand on a un doute, ou quand on pleure, ou quand on est désemparé par rapport à une situation, peut-être que se dire, alors à ce moment-là, mais est-ce que c'est vraiment la médecine que je dois faire ? Parce qu'on ne nous a pas préparé à ce genre de situation plus fragile.
On l'entend, hein, Marie-Astrid de Villeneuve, vous êtes en première ligne lors de crises, que ce soit lors d'attentats ou lors d'une épidémie comme celle que l'on vit aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment, l'impression d'avoir les moyens d'assurer cette première ligne aujourd'hui ?
De toute manière, oui. On y arrivera. On perdra sans doute quelques plumes, comme il y a 5 ans, mais on va y arriver. On est entouré, on a du matériel en suffisance, on a des médecins, des infirmiers, on a...
Et en même temps, vous hésitez en répondant. Lors de la première vague, lors de la deuxième vague, vous étiez exprimé dans la presse avec des cartes blanches, exprimant justement cette fatigue d'une médecine en première ligne. Est-ce que les choses bougent, vous avez l'impression ? On est à l'aube, là, peut-être, d'une nouvelle crise dans les hôpitaux.
On aimerait que les choses bougent, on aimerait qu'elles bougent plus vite. Aucune idée s'il y aura réellement une troisième vague ou pas. Comment est-ce qu'on va pouvoir gérer cette troisième vague? Les soignants sont fatigués. Mais notre boulot est de continuer.
Et votre livre, c'est aussi une volonté de prendre en compte, comme ça, ces séquelles psychologiques des soignants. On va commémorer les victimes des attentats ce matin. Il y a peut-être aussi tout un spectre de la population qui a des victimes, qui a des séquelles psychologiques auxquelles on ne tient pas forcément compte.
Tant les patients qui étaient sur place que leurs familles, que ceux qui ont pris le métro juste avant ou juste après, je pense que chacun, selon ses sensibilités et selon ce qu'il, son bagage à ce moment-là, en effet, je pense qu'on est tous victimes. Et je ne suis pas sûre qu'on puisse dire à certains niveaux en disant les soignants sont plus victimes que la population générale et moins victimes quand même que les patients qui étaient là. Alors je pense que la grande différence, c'est que les patients, eux, quand ils se regardent le matin dans le miroir, ils ont encore des vraies cicatrices visibles. Nous, on se regarde le matin dans le miroir, on a des cernes et on avance.
Et on avance.
Urgence, attentat, c'est le titre de votre livre, Marie-Astrid de Villeneuve-Fagnes et Yvan de Beaufort, votre époux qui l'a écrit avec vous sur les secours du 22 mars 2016 à Bruxelles. Merci à vous d'avoir témoigné ce matin sur la première. Et si vous voulez suivre en direct les commémorations officielles de ces attentats aujourd'hui, 5 ans plus tard, rendez-vous dès 11h30 sur la Une télé avec Laurent Mathieu. Merci à vous, Thomas Gallis.